Ce matin, bien, on continue notre série sur l'Église, la famille de Dieu. Puis, je vais vous inviter à tourner encore une fois dans Galates chapitre 4. Voici le verset thème de notre série. Hein, vous vous rappelez? On l'a dit ensemble. Je veux que ça rentre dans votre cerveau et dans votre cœur aussi. Paul dit dans Éphésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Certains d'entre vous vivent ça plus que d'autres, hein, parce que vous êtes des gens qui viennent ici depuis peu de temps, et peut-être immigrés, mais regardez ce que Dieu dit. Il n'y a personne dans l'Église qui est véritablement un enfant de Dieu, qui est un immigré ou qui est une personne de passage. Alors, pour faire partie de la famille de Dieu, il faut être en relation avec qui? Le Père de la famille. Et c'est ça qu'on est en train de regarder dans cette première partie sur l'Église, la famille de Dieu. On est en train d'étudier notre relation avec le Père. C'est fondamental. C'est fondamental à tout ce qui va venir après. Parce que quand on parle de la famille, c'est la famille à qui? C'est ta famille? C'est la mienne? Non, non. C'est l'Église de Dieu, c'est la famille de Dieu, OK, en premier lieu. Alors, c'est juste si je suis en relation correcte avec le Père que je fais partie maintenant de sa famille et tout le reste va en découler, OK? On va étudier ça. On va étudier les relations dans la famille. On va étudier ta place dans la famille et toutes ces choses-là, la mission de la famille, etc. Mais tout dépend de la fondation, de ce qui est fondationnel et de notre relation avec Dieu le Père. Voici ce qu'on a vu depuis les deux ou trois dernières semaines, que Dieu nous adopte à travers l'œuvre de Christ à la croix. Et la foi que tu places en lui, Dieu peut t'adopter comme enfant. C'est une adoption parce que dans notre état naturel, nous ne sommes pas enfants de Dieu spirituellement. Nous le sommes physiquement parce que nous sommes ses créatures, mais spirituellement, il faut être adopté dans la famille de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. Et comment on fait ça? Par la foi en Christ. Et quand on est adopté par Dieu, le Père, bien, on a une nouvelle identité, enfant de Dieu, un nouvel héritage, une nouvelle liberté, une nouvelle intimité. On a vu tout ça. Et voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes parce qu'il envoie son esprit en nous au moment où ce qu'on croit. Dieu nous adopte et il envoie son esprit. Donc, la Bible dit que celui qui croit en Dieu, en Jésus, est avec lui un seul esprit. Donc, ça change tout, ça. Ça change vraiment, vraiment tout. Bon, ce matin, on va approfondir deux de ces éléments-là parce que je trouve ça vraiment, vraiment important. Et les deux éléments, c'est l'identité et la liberté. Tout découle de ton identité. C'est vraiment important que tu saisisses cette nouvelle identité-là. Sinon, ça va te causer des problèmes dans ta marche et dans ta relation avec les frères et sœurs dans la famille. Tout découle de ton identité, de comment tu te vois, comment Dieu te voit premièrement, et si tu accueilles cette nouvelle identité-là. Sinon, ça va causer des problèmes dans ta marche. Ça prend une relation saine avec le papa de la famille pour avoir des relations saines avec les autres dans la famille, pas vrai? Si on a un problème, bien, ça peut causer d'autres problèmes. Souvent, on a un problème dans notre vie, puis on dit, bien, voyons donc, c'est quoi qui se passe? Et puis, on réalise en consultant que ça dépend d'un autre problème. Comme moi, il y a deux semaines, j'avais mal aux pieds. Enfin, je suis allé consulter en orthopédie. Il a pris des radiographies de mes pieds. Il n'aurait pas dû faire ça. Et mon ami, le gros orteil de chaque côté, là, il y a de l'arthrose gros comme ça. Les deux jointures sont finies raides. Puis, Et là, j'ai dit OK. Fait que là, il me fait une prescription pour des orthèses spéciales. Fait que là, vendredi, je suis allé chez l'orthésiste. Puis il met sur le tapis roulant pour voir comment je marche. Puis là, il m'a expliqué pourquoi. Pourquoi ça a fait ça? Il dit, tu marches comme ça, les pieds vers l'extérieur. Puis quand tu décolles ta marche, tout le poids est sur l'articulation du gros orteil. Ah! Mais comment ça se fait que je marche de même, là, comme un pingouin? Ah! Bien là, il y a des déséquilibres dans les muscles du bassin qui fait que mes pieds sont trop rotationnés vers l'extérieur. Un problème peut causer un autre, voyez-vous? Et ça, je veux dire, si ta relation avec Dieu n'est pas saine, ça va te causer des problèmes dans la famille. C'est fondamental de saisir l'identité que Dieu veut te donner et être en relation saine avec ton papa pour vivre la famille sainement. Vous voyez? Fait qu'on va lire Galates 4, 1 à 11. Moi, je suis dans la version sommaire parce que je trouve ça plus facile à comprendre. Si vous voulez lire dans votre Bible puis me suivre, c'est correct. Sinon, juste écouter, c'est correct aussi. Galates 4, chapitre 1, verset 1, pardon. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, il parle des Juifs, là, il parle de la nation juive. Nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses enfants. Puisque vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui en réalité ne sont pas Dieu. Ici, il s'adresse aux païens. Okay? Tantôt, c'était les Juifs, sous la loi de Moïse. Ici, c'est les païens qui servaient d'autres divinités, pas le Dieu de la Bible. Ils suivaient d'autres divinités, ils servaient d'autres divinités en réalité qui ne sont pas Dieu. À présent, vous connaissez Dieu bien plus. Vous avez été connu de Dieu ou reconnu comme sien. Pardon. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires, à ces rudiments, sans pouvoir ni valeur pour en devenir de nouveau esclaves? Et c'est quoi ces principes élémentaires dont il parle ou ces rudiments? Verset 10. Vous observez les jours spéciaux, les lunes nouvelles, certaines saisons, certaines années. Donc, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Dans le contexte que Paul utilise, comme j'ai déjà dit, il a parlé de tuteur, d'enseignant, de pédagogue, un enfant qui est soumis à un pédagogue qui lui enseigne des principes, fais ci, fais pas ça, ou apprends ci, apprends ça, puis l'enfant apprend des choses par cœur, sans vraiment comprendre, ou sans être en relation, c'est la même chose. Toute religion, où ce qu'il n'y a pas de réelle relation avec Dieu, et la seule réelle relation que tu peux avoir avec Dieu, c'est à travers Jésus, eh bien, toute relation a des bons principes, c'est correct, mais toute relation, c'est des principes rudimentaires. C'est fais ci, fais pas ça. Fais ci, fais pas ça. Et donc, on apprend à obéir ces choses-là, mais sans trop comprendre et sans être jamais en relation avec le Père. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qu'il dit encore ici au verset 11? « Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. » Parce que Paul avait été prêcher l'Évangile à Galates, et ces gens-là à qui il écrit la lettre, Ben, il y a d'autres personnes qui sont venues après Paul qui ont dit, c'est bien beau ce que Paul a prêché selon ce que Paul a dit par rapport à Jésus, mais il faut que vous observiez la loi de Moïse aussi. C'est pas assez de croire en Jésus, c'est bien beau croire, c'est beau croire, là, c'est, oh oui, c'est parfait. Mais il faut que tu obéisses aussi à la loi de Moïse. Fait que là, Paul est en train de vraiment, comment on dit, clarifier toute cette situation-là. Il est en train de redresser, de reprendre, de confondre cet argument-là. Et là, il dit, vous êtes retournés à la loi. Et il a dit dans le chapitre 3, ce qu'on a vu, que tous ceux qui veulent s'attacher aux œuvres de la loi, au verset 10, chapitre 3, verset 10, tombent sous la malédiction. C'est ça, c'est le rouge. Yes, nous sommes en business. OK, tu veux essayer d'obéir la loi, tu vas tomber sous la malédiction de la loi. Parce que Paul dit, celui qui veut obéir à la loi doit obéir à tout constamment. Celui qui n'obéit pas constamment à tout ce que la loi dit, tombe sous la malédiction de la loi. C'est comme ça que ça marche, la loi de Moïse. Si tu obéis parfaitement, tu es béni, mais dès que tu tombes en dehors, tu es maudit. Des maudits. Et Paul a dit dans le chapitre 4, au verset 1, que la loi a servi de nous tourner vers Christ, à la fin du chapitre 3, pardon. Que la loi a servi de nous tourner vers Christ, nous amener à Christ, parce qu'on réalise qu'on n'est on n'est pas capable. Sautons maintenant au verset 21. Verset 21, Paul dit, chapitre 4, « Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? » Là, ici, il ne parle pas de la loi strictement des 12 commandements, mais de toute la loi, c'est-à-dire des Écritures. Quand Paul utilise le terme « loi », ça peut vouloir dire les 10 commandements, ça peut vouloir dire aussi tous les livres de l'Ancien Testament. Et c'est ça que dans ce sens-là qu'il utilise ici. Il est écrit, verset 22, qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Interprétons cela comme une image, comme une allégorie. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances conçues sur le mont Sinaï donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar, Mont Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Or, vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac, mais autrefois, le fils conçu de manière simplement humaine persécutait le fils né par l'intervention de l'Esprit, et il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas des enfants d'une esclave, mais de femmes libres. Le Christ nous a rendus libres, pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, vous vous faites circoncire hein, pour obéir à la loi de Moïse, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Et je l'affirme encore une fois, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir quoi? La foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Prions. Père éternel, encore une fois ce matin, nous sommes réjouis d'être en ta présence, Père. Ensemble, en famille, nous sommes ta famille, Père, par les mérites de ton Fils Jésus à la croix. Merci, Seigneur, de faire luire sur nous ta face, de nous accorder ta faveur. Merci de nous donner ton Esprit Saint qui nous instruit, qui nous éclaire, qui nous révèle ta pensée intime. Ce matin, Seigneur Jésus, on veut entendre ta voix seule. On repousse en ton nom, Seigneur Jésus, toutes les autres voix, la voix de ce monde, la voix de notre nature déchue, la voix de Satan. Frayez le chemin devant le roi de gloire. Frayez le chemin. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel, puissant dans les combats. L'Éternel, le Seigneur des armées. Il est le roi de gloire. Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Donc, la phrase sommaire ici de mon message est ici. Si je ne peux pas résumer mon message en une phrase, j'ai un problème. Des fois, je l'étire un peu, j'étire la sauce un peu, mais voilà. Si tu te tournes vers le Christ comme ton sauveur, tu seras adopté par Dieu le Père et tu passeras de l'état d'un esclave à celui d'un enfant libre qui sert son papa par amour et non par la crainte des représailles. Et c'est ce que je veux voir avec vous ce matin. Une identité exclusive. On a regardé, on a vu qu'il y avait, on avait une nouvelle identité, mais ce que je veux que vous compreniez ce matin, c'est une identité exclusive. Tu ne peux pas avoir deux identités. C'est un ou l'autre, OK? Et l'autre point que je veux regarder avec vous ce matin, c'est la nouvelle liberté qu'on a, c'est affermie. Affermis. Donc, on approfondit des concepts qu'on a vus déjà. On les approfondit. On va les regarder plus en détail. Donc, nouvelle identité exclusive. Puis, Paul ici utilise l'exemple d'Abraham. Puis, je comprends que si c'est la première fois que vous lisez ça, ou même la deuxième ou troisième, des fois, ça peut être mêlant, ça peut être un peu difficile à comprendre. On va essayer de simplifier ça. Paul ici nous explique clairement que tu es soit un esclave, soit un enfant libre. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Et il utilise l'exemple des deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac. OK? Pour commencer, Dieu avait promis unilatéralement, inconditionnellement, à Abraham qu'il aurait un fils. Et qu'à travers ce fils-là, il allait accomplir son autre promesse qu'il serait une bénédiction à toutes les nations de la terre, qu'il le bénirait, qu'il le rendrait fécond. Et que c'est ça, il y aurait un fils. C'est une promesse que Dieu fait. Est-ce que Dieu était tenu de faire cette promesse-là? Non. Absolument pas. C'est gratuit, c'est gracieux, c'est un cadeau. Et tout ce qu'il demandait à Abraham, c'était quoi? De croire, la foi. Et Dieu a dit, puisque tu me crois, « Je te déclare juste. » C'est fou, mais c'est comme ça. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, Abraham avait cru Il avait placé sa foi en Dieu et dans ses promesses, mais savez-vous quoi? À Abraham, c'est un homme comme nous. Et puis là, un an passe, deux ans passent, trois ans passent, quatre années passent, cinq années, etc. Et puis le paquet d'Amazon n'arrive pas, là. Le paquet du fils, le promis, il n'arrive pas. Il est où? Et là, sa foi, comment ça va scier un peu, là? Comment ça va scier? Et là, sa femme a une brillante idée. Sa femme, là, a dit, je sais c'est quoi qui va être la solution, parce que moi, je ne peux pas avoir d'enfant, c'était ça le problème. Hein?
Elle avait
90
ans.
Ben oui. Puis là, donc, elle suggère à son mari Abraham de prendre sa servante à elle, à Sarah, et d'avoir un enfant avec elle. Puis dans ce temps-là, l'enfant d'un esclave pouvait être adopté comme un fils réel. Puis bon. Donc, Abraham, il dit, « Hein, tu n'avais pas pensé à ça? » Quelle bonne idée! Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fait ce que toi et moi, on fait souvent. On prend les choses en main. Quand les promesses de Dieu, là, s'attardent. Fait qu'il va vers sa servante Agar, une esclave, pour avoir un fils par ses propres efforts. Et non par la foi dans la promesse de Dieu, qui avait spécifié que ce serait Sarah. Dieu avait spécifié. Ah, tu vois comment est-ce qu'on est là, hein? Ah, Dieu s'est dit ça, bien, on va juste changer une affaire, là. Un paramètre dans l'équation. On va changer juste un petit élément, là. Une bolt. Hein? Ça ne change pas grand-chose, une bolt, dans toute la voiture. Ça dépend où est-ce qu'elle est, la bolt, hein? Bien, il prend les choses en main. Et là, il y a un enfant qui s'appelle Ismaël, puis ça prend 13 ans encore, ou 12, 13, 13 ans encore, avant qu'Isaac arrive. Wow! Et Paul, ici, il fait un parallèle avec tout ça. Il dit, il y a un symbolisme là-dedans qu'il faut comprendre. Il dit, l'ancienne alliance de... premièrement, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est une alliance basée sur une promesse déclenchée par la foi. OK? Activée par la foi. L'évangile de Jésus-Christ est exactement la même chose. C'est une promesse de la vie éternelle, une promesse du pardon des péchés, d'être déclaré juste, et c'est activé par la foi en Jésus-Christ. L'ancienne alliance, c'est comme Abraham avec Agar. C'est par ses efforts, ce que ça produit, c'est quelque chose qui n'est pas libre. L'ancienne alliance, ce n'est pas basé sur une promesse, c'est basé sur nos efforts, et ce que ça nous rend, c'est esclaves subjugués. Donc, Paul fait un parallèle entre les deux. L'alliance que David a faite avec Abraham est basée sur une promesse activée par la foi d'Abraham dans la bonté, l'amour et la grâce de Dieu. Tout est du côté de Dieu. Il n'avait qu'à croire et attendre l'accomplissement de la promesse. Cette alliance préfigure la nouvelle alliance établie par le Christ. C'est ça que Paul veut dire. Dieu promet à tous ceux qui placent leur foi en Christ un héritage, la vie éternelle. Donc, l'alliance basée sur la promesse de Dieu nous rend enfants libres, comme Isaac était un enfant libre. L'autre est basé sur nos efforts et rend de nous des esclaves subjugués. C'est ça le parallèle que Paul veut faire. Maintenant, je veux préciser, si je fais une petite parenthèse, on dit que l'alliance de la promesse, que ce soit l'alliance avec Abraham ou l'alliance avec Jésus-Christ, c'est basé sur la foi. OK? C'est la foi. C'est quoi la foi? OK. Je veux juste faire une parenthèse. De quelle foi on parle? De quelle foi il s'agit? La foi dont la Bible fait mention ici, ce n'est pas un assentiment intellectuel à une vérité théorique ou même une vérité réelle. Ce n'est pas, ah oui, je crois que l'homme a marché. Il y a des hommes qui ont marché sur la lune. Ça, c'est croire. Je crois. C'est un fait. Je crois dans un fait. Non, la foi dont il est question ici, c'est une confiance qui me pousse à poser un geste. Que les hommes aient marché sur la lune, je peux y croire, mais ça ne change rien à ma vie, là. OK? Ça, c'est pas ça qu'on parle de croire. La sorte de foi qu'on parle ici, c'est une foi, c'est une confiance née d'une nécessité et qui me pousse à poser un geste. Je vous donne un exemple. Tu te promènes dans la nature et tu tombes en bas d'une falaise. Et là, tu t'agrippes, puis tu prends juste comme une main, les ongles, tu tiens, hein, comme on voit dans les films des fois, là, tu tiens juste à les ongles d'une main. Et là, ton papa, il arrive, il te voit, il te tend la main. Il dit, « Donne-moi l'autre main. » Et là, tu crois. Tu crois et tu agis. Tu places ta confiance. Tu places ta main. C'est de cette croyance-là qu'on parle. Quand on dit foi, là, c'est pas juste comprendre. C'est pas juste dire oui. Tout le monde peut dire oui, je suis pécheur. Tout le monde peut dire oui, Jésus est mort à la croix pour nos péchés. C'est pas ça, là. T'es pas enfant de Dieu en disant ça. Il faut que tu places ta confiance en Christ. Moi, je suis pécheur. Si je meurs aujourd'hui, je suis face à Dieu, je suis perdu. J'ai besoin, Jésus, que tu me sauves. Tu me tends la main, je te donne la main. Tu me saisis la main, je veux, Seigneur. Je crois. Ça devient après ça une certitude. Merci, mon frère. Et c'est pourquoi... Ça te pousse aussi à poser un geste comme te faire baptiser devant les gens. Tu veux faire partie de la famille ici, il faut que tu t'identifies publiquement, la Bible dit, par le baptême. Ah là, baptiser, ben là, je ne comprends pas. Là. Bon, c'est un symbole que Jésus a établi. C'est lui qui a décidé ça. Tu veux me suivre? Viens, tu crois en moi, pose un geste. Tu vas te faire baptiser. Ce n'est pas le baptême qui te sauve, là. C'est la foi. Mais la foi te pousse à poser un geste. Et ça que Jacques dit dans son épître aussi, une foi qui n'a pas d'acte, ce n'est pas une foi. C'est un assentiment intellectuel. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans les églises évangéliques et d'autres, qui ont une foi intellectuelle. Une compréhension de vérité, oui, puis oui, je crois à ça, oui, je crois. Mais ils n'ont pas la confiance en Dieu. Un autre exemple, c'est que j'ai toujours donné souvent à cause de mon travail. Les gens vont venir me voir. Bon, ben vous avez une cataracte, il faut que je vous opère. OK, oui, j'ai une cataracte. Croyez-vous que je suis capable de vous opérer? Oui. OK, on vous opère la semaine prochaine? Non. Comment ça? Bien là, la personne, est-ce qu'elle croit ou elle ne croit pas? Et les gens qui viennent dans la salle d'opération, ça me frappe toujours. Il y en a qui me disent, « Docteur, j'ai pleinement confiance en vous. » Wow! Et ça, ça me touche. Et je leur dis, « Merci de votre confiance. Merci de votre confiance. » Voyez-vous la différence, là? Un peut dire, « Oui, oui, je crois que tu es capable de m'opérer. » Mais ce n'est pas ça, la foi. La foi, c'est quand tu poses un geste, quand tu mets ta confiance. Un autre exemple, la chaise ici. On peut dire, Marc-André, est-ce que tu crois que cette chaise-là a été conçue pour supporter ton poids? Marc-André, est-ce que tu crois que si tu viens t'asseoir dans cette chaise-là, elle va te soutenir? OK, parfait. C'est-tu la foi? Non. C'est ça. Quand est-ce qu'on va savoir si Marc-André y croit vraiment? Il va s'asseoir dedans. OK. Effectivement.
Il existe toujours,
le doute. Voilà. Alors, c'est un bon point. C'est un bon point. Parce que ça, c'est une œuvre humaine. Oui, mais parce que ça a été fait par des gens faillibles, dans un monde faillible, il y a des chances. Il y a des chances que si je t'opère, qu'il y a des complications. Même si ta confiance est entière. Alors là, la question devient la personne en qui tu mets ta confiance. Ça, c'est très important. C'est pas, ah, il y a des gens qui disent, ah, ben moi j'ai la foi, puis l'autre personne a la foi, on a tous la foi. Non, attends un peu, là. Non. La foi, il faut qu'elle soit dirigée vers la bonne personne. Oui. 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 OK. OK. OK, c'est bon, oui, c'est bon. Pas que je suis meilleur qu'un autre, mais le fait de ne pas avoir confiance, ce n'est pas un bon départ, là. Mais c'est un excellent point. Alors, si j'ai confiance en quelqu'un, puis la personne n'est pas digne de confiance, j'ai beau avoir confiance, j'ai beau poser un geste, ça ne marchera pas. Alors, est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, est digne de ta confiance? Est-ce que le Père qui veut t'adopter dans sa famille, il est digne de ta confiance? C'est ça la question. Excellent point. Merci, Marc-André. Alors, ça me rappelle une histoire, juste en passant, là. On était en voyage en 2019 en Italie, puis on était sur le bord d'une falaise, justement, au bord de la mer. Puis il y avait une fille, on arrive là, puis il y a comme une commotion, puis il y a une fille japonaise qui avait perdu ses lunettes de soleil en bas, mais ça avait accroché sur un buisson là, qui poussait, tu sais, dans la fente de la falaise. Puis là, nous, on arrive là, puis je pense que c'est un militaire français, il demande à quelqu'un, puis là, il me voit arriver, puis je ne sais pas, à cause de mes gros bras, probablement, il dit, « Hey, dis, viens! » Puis lui, il se lance comme ça, là, puis il veut qu'on poigne ses pieds. OK? Oh oui! Fait que là, moi je suis là avec une jambe, puis l'autre gars est là avec l'autre jambe, puis lui, il est suspendu, puis il va chercher les lunettes de la fille. Hey, il fasse drôlement confiance à des purs inconnus, hein? C'est incroyable. Puis là, Lorraine a dit, « Ah! C'est quoi tu fais là? C'est quoi tu fais là? » Ben, j'ai dit, « Non, c'est correct, là, regarde. » Fait que... s'il aurait tombé, je l'aurais suivi parce que j'étais agrippé. Mais ça, c'est la foi, là. Ça, c'est la foi. Est-ce que sa foi était bien fondée? Je ne sais pas. Bien, dans ce cas-là, effectivement, elle était bien fondée. Mais c'est ça, la foi dont on parle. Ce n'est pas un sentiment intellectuel, c'est une vérité. Paul démontre ici clairement qu'on ne peut avoir deux identités en même temps. Soit tu es en relation avec Dieu basée sur tes performances, donc comme l'ancienne alliance, sous les principes rudimentaires, fais ci, fais pas ça, donc un esclave, soit tu places ta confiance dans la promesse que Dieu te fait, qu'à travers Christ et sa mort à la croix pour toi, tu peux devenir son enfant et hériter de la vie éternelle. Quelle est la nature de ta relation avec Dieu? C'est un ou l'autre? Es-tu devenu un enfant de Dieu par adoption, comme on le voit dans ce passage? As-tu reconnu ton besoin de tourner vers Jésus, envoyé de Dieu qui est mort à ta place à la croix, pour te racheter, pour te libérer, comme on a vu, de l'état de l'esclave, de la malédiction? Et sinon, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Vendredi, on était à Alma, puis on magasinait une voiture, puis on a terminé. Lorraine va à la toilette, puis le vendeur, qui est très sympathique, je l'aime beaucoup, on est à côté, là, puis on regarde dehors, puis là, il voit une belle Golf Air récente. Il dit, cette auto-là, le propriétaire, il est mort la semaine passée à 46 ans. Crise cardiaque. Bang! Puis là, ben, sa conjointe a ramené l'auto parce qu'elle ne peut rien faire avec ça, puis c'est trop cher. Puis là, il est comme bouleversé de ça. Puis là, on parle, puis on ne sait pas, hein? Il dit, il était ici il y a 2 semaines, puis je parlais avec, puis je faisais des, tu sais, puis garde, il est parti. Son auto est là. Pourquoi attendre? Alors la Bible dit que c'est par la foi, par ta confiance en Christ, que Dieu te déclare juste, comme on a vu, et qu'il envoie dans ton cœur son esprit qui crie « Abba ». Et c'est cette relation-là qu'il faut pour être dans la famille de Dieu et pour avoir des relations saines dans cette famille-là. Mais savez-vous quoi? Même si on est enfant vraiment né de nouveau, qu'on a reçu l'esprit, des fois, on peut garder l'ancienne mentalité. On garde la mentalité d'un esclave. C'est ça que je veux voir avec vous ici. Peut-être cette ancienne pensée, cette ancienne façon, cette manière de penser t'habite. Peut-être tu es plus ou moins conscient. Peut-être je suis plus ou moins conscient. Mais on traîne des fois des choses avec nous, en dépit de cette nouvelle identité. Comme l'anxiété. Tu vis peut-être l'anxiété parce que tu n'as pas la certitude d'être un enfant chéri par le Père. Tu cherches encore ton identité. Tu cherches ta place dans l'Église, sa famille, puisque tu n'es pas certain ou certaine de ta relation avec le Père, et ça crée de l'anxiété. Un ami nous a confié dernièrement que chez lui, ses parents étaient presque toujours présents, et quand il amenait un ami à la maison, ses parents l'accueillaient. L'accueillaient, puis ils disaient, bon, tu sais, sers-toi, fais comme chez vous, tu peux aller chercher des céréales dans le placard, peu importe. Et il l'accueillait et le jeune, il se sentait chez lui. Mais lorsque notre ami, lui, il allait chez ses amis, souvent les parents n'y étaient pas. Ou, si les parents étaient là, ils n'entraient pas en relation avec lui. Puis lui, ben, il se sentait mal à l'aise. Il ne savait pas c'était où sa place. Il ne savait pas comment. Il était mal à l'aise, vois-tu? C'est ça, là. Si tu n'es pas en relation avec le père de la famille qui t'accueille, ou si ce n'est pas clair dans ta tête, tu as encore la mentalité d'un esclave, tu vas être incertain, tu vas vivre de l'anxiété, tu vas chercher ta place. La culpabilité. La mentalité d'un esclave, c'est la culpabilité. Tu demandes constamment pardon pour tes fautes. Même si ça fait 4 fois que tu as demandé pardon pour un péché particulier, tu te sens encore obligé de redemander pardon. Tu n'as pas saisi la notion de la justification, que Dieu n'a pas seulement pardonné tes péchés en Christ, mais il te déclare juste. Oui, tu peux pécher. Mais ça ne changera pas ton état devant Dieu, de juste, comme Abraham. Dieu l'a déclaré juste. Si après Abraham, quand il a défailli dans sa foi, là, est-ce que Dieu dit, ah, OK, c'est beau, là, tu n'es plus juste? Non. Dieu l'avait déclaré juste. Abraham, il a vacillé dans sa foi. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il a péché. Mais ça n'a pas changé son état devant Dieu. Devant Dieu, Dieu l'avait déclaré juste. Et c'est la même chose avec Christ. Et si tu ne saisis pas ça, tu n'es pas en relation saine avec Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Quand tu vas pécher, c'est la culpabilité maintenant qui t'envahit. Et comment ça se manifeste? Tu demandes constamment pardon, pardon, pardon. Tu ne réalises pas qu'en Christ, Dieu n'a pas simplement effacé tes fautes, et qu'il attend que tu fasses une autre faute pour te rendre coupable encore, mais qu'il t'a déclaré juste, la Bible dit, en déposant, en imputant la justice de Christ à ton compte. Ça veut dire, il dépose la justice de Christ à ton compte. Tu as une justice infinie. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Est-ce que ça te donne la liberté de pécher? Non, pas du tout. Mais ça te donne une confiance que si tu pèches, tu seras pardonné. Et ça ne changera pas ton état devant lui. Ça ne changera pas ta position devant lui. Ça ne changera pas ta relation d'enfant avec ton papa béni. Tu vois comment c'est tellement important. La crainte. Une attitude d'esclave, c'est que tu vis dans la crainte. Tu crains la réaction de Dieu à tes manquements. Tu redoutes son jugement, des représailles de sa part. Et lorsqu'il t'arrive quelque chose de mauvais, tu vis d'emblée comme une punition de la part de Dieu. Ce n'est pas la liberté d'un enfant de Dieu. La distance. Dieu te semble loin. Tu ne ressens jamais sa présence ou très rarement. Tu essaies encore machinalement d'éviter de déplaire à Dieu ou de faire ce que tu penses qu'il le plaît. Comme l'enfant qui veut se faire aimer et adopter par un parent, mais sans entrer dans l'intimité avec ce parent, sans vivre la vérité que tu es déjà chéri. Tu ne lui parles pas avec ton cœur, comme on a vu la semaine passée, mais tu formules des prières correctes. Il y a une distance. C'est la mentalité d'un esclave. Ce n'est pas la mentalité d'un enfant chéri. Quoi encore? La critique et le jugement des autres. Ah oui? Oui? Comment ça? Puisque toi, tu ne te sens pas à la hauteur, mais jugé par Dieu, cela te pousse à te forcer, à conformer à certaines règles, certains principes, pour arriver à ce qu'il te trouve correct. Et si à tes yeux, tu as réussi, bien, cela t'amène à juger, et à condamner et à critiquer les autres parce qu'ils ont juste à se forcer comme toi. Ça crée une fausse sentiment de justice basé sur tes efforts. Et là, si les autres ne font pas leur effort, critique, jugement. Voyez comment est-ce que tout découle de notre identité. La colère. Un autre aspect de la mentalité d'un esclave, c'est la colère. Tu vis les événements comme des injustices et non comme étant permises par ton Père, tout-puissant et bienveillant, qui est au contrôle de tous les détails de ta vie parce qu'il t'aime. Non, puisque toi, tu te forces pour être bon, ben Dieu, il doit te traiter avec bonté aussi. Et donc, tu n'as pas encore appris à lui faire entièrement confiance. Parce que tu es incertain ou incertaine de ta position devant lui. Et lorsqu'il t'arrive des choses mauvaises, tu es en colère. Parce que moi, je me force pour te plaire, Dieu. Pourquoi toi, tu ne me fais pas du bien? Ça, c'est une mentalité d'esclave. Mentalité d'esclave. La colère. La colère. Finalement, la honte. La mentalité d'un esclave, c'est la honte. Tu ne te sens jamais à la hauteur avec Dieu. Ses exigences sont lourdes, sont sévères. Tu n'oses pas demander ou déranger Dieu puisque tu n'en vaux pas la peine à tes yeux. Il est trop occupé ou préoccupé. Tu crois peut-être que tu es un enfant de Dieu, mais tu n'as pas été entièrement accepté par Dieu dans ta pensée. Tu n'as pas accepté qu'il soit ton papa. Comment je sais ces choses-là? Ben, je les ai vécues et certaines choses, je les vis encore. Parce qu'on ne se débarrasse pas de cette mentalité-là du jour au lendemain. On a été tellement longtemps esclaves que maintenant, il faut s'approprier cette nouvelle identité. Dieu dit, tu es mon enfant chéri. Dieu dit, je ne te lâcherai pas. Dieu dit, je t'aime. Dieu dit, j'ai tout pourvu pour toi. Mais est-ce que je le reçois? Est-ce que tu le reçois? Je crois que chacun de nous peut s'identifier à certains éléments dans cette description de la mentalité d'un esclave. Chacun de nous se situe à quelque part sur le chemin d'une relation intime avec notre Papa Céleste. Comme on l'a vu la semaine passée, hein, Robert, il nous a avoué que lui, des difficultés à rentrer en intimité avec Dieu, difficultés à prier avec son cœur. Bon. Parce que, comme on le voit dans le texte, nous partons tous d'un état naturel qui est éloigné de Dieu, orphelin, esclave, et on ne fait pas partie de la famille, Mais là, c'est de s'approprier cette nouvelle identité. Si tu t'es tourné vers Jésus comme ton sauveur, tu n'es plus esclave, mais enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ça c'est un verset qui m'a frappé dernièrement, Jacques 1:18, « Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. » Dieu n'est pas forcé, là. Il ne s'est pas forcé là, de t'adopter. C'est librement. C'est pleine volonté. C'est volontairement que Dieu t'a adopté. Par un acte de sa libre volonté. Autrement dit, tu es voulu. Tu es désiré. Tu es voulu. Dieu veut de moi. Répétez avec moi. Dieu veut de moi. Dieu veut de moi. Dieu veut de moi. C'est ce qui est écrit là. C'est pas moi qui le dis. Oui, Jean-Claude? C'est lui qui suscite la foi. Mais on doit le choisir également, mais lui, c'est lui qui nous engendre par la foi dans sa vérité. C'est ça. Pour chacune de ces étalons qu'on a vus dans la mentalité d'un esclave, on voit que Dieu a une réponse. Si c'est de l'anxiété que tu vis, ton papa veut te donner la sécurité. Être sécure dans son amour. Est-ce que tu te sens sécure dans son amour? Il t'a aimé d'un amour éternel, nous dit la Bible. Il veut vraiment que tu saisisses ton identité comme un enfant chéri et que tu l'accueilles comme ton papa. As-tu déjà dit à Dieu, « Oui, je suis ton enfant bien-aimé? » As-tu déjà dit à Dieu, « Je t'accepte comme mon papa, maintenant et pour toujours? » Dieu veut être ton papa. Veux-tu? Veux-tu qu'il soit ton papa, qu'il prenne soin de toi et qu'il dirige ta vie? Si c'est la crainte que tu vis, ton papa veut te rassurer. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour toi, mon enfant, puisque tu es en Christ et qu'il a payé le prix pour tous tes péchés. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi n'entre pas dans le jugement, il est passé de la mort à la vie. » Il y a deux catégories de personnes, les morts et les vivants. Tu es soit mort ou tu es vivant. Et Jésus dit, « Si tu crois en moi, tu es passé de la mort à la vie, et donc tu n'entreras pas dans le jugement. » Le jugement, c'est pour qui? C'est pour les morts qui n'ont pas reçu la vie en Christ. Si tu te sens loin, si tu sens Dieu loin plutôt, sache que ce n'est pas son désir. Dieu est près, très près de ses enfants. Il t'a à l'œil jour et nuit. Il veille sur toi jour et nuit, comme nous dit le psaume 121. Il est toujours à côté de toi. Il veut que tu ressentes constamment sa présence par ton union avec le Christ. Ton papa t'a rapproché de son cœur aussi près que son fils Jésus. Si tu es en Christ, tu es aussi près du cœur de Dieu que Christ. Paul nous dit dans Éphésiens 2:13, comme on l'a vu il y a quelques semaines, « Vous qui étiez loin, il vous a rapproché par le sang de Christ. » Si tu vis la colère face aux événements de la vie, arrête, sache que Dieu, ton papa, il est Dieu. Il domine sur les nations. Il domine sur la terre, psaume 46, 11. Il sait ce qu'il fait. Il orchestre toutes choses pour ton bien spirituel et pour sa gloire. Si c'est la honte que tu vis, sache que Christ est venu porter ta honte à la croix. Ton papa n'a pas honte de toi. Beaucoup de nous ont vécu la honte. quand on était jeune. Moi, c'est un terme que j'ai entendu beaucoup quand j'étais jeune. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. J'ai entendu ça beaucoup. Beaucoup. Et c'est pour ça que je transpose beaucoup ça avec mon père. Je me sens souvent honteux. Je me sens souvent pas à la hauteur avec mon Père céleste. Est-ce que c'est lui qui veut ça? Non, c'est pas lui qui veut ça. Ton papa n'a pas honte de toi. Il nous a affirmé que tous ceux qui marchent par la foi, dans Hébreux 11, 16, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Hey! Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu de Brian. Il n'a pas honte d'être appelé le Dieu de Brian. Wow! Même avec tous mes manquements, mes défauts, mes écarts, non! Et Christ, ton grand frère, n'a pas honte non plus. Il nous est dit dans Hébreux 2, 11, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Il n'a pas honte de t'appeler sa sœur, Jésus. Est-ce que tu l'accueilles, ça? Est-ce que tu le vis, ça? C'est tellement important. La raison qu'il nous est donnée, c'est que Jésus a partagé la même humanité que nous et qu'il connaît notre condition parce qu'il a tout vécu ce qu'on peut vivre et pire encore. Jésus dit qu'il aura au contraire honte de tous ceux qui auront eu honte de lui et de ses paroles au milieu des hommes de ce temps. C'est pourquoi il faut le reconnaître publiquement et ne pas avoir honte. C'est pour ça qu'il demande le baptême, Jésus. Il demande que tu t'identifies à lui publiquement. Et si tu le fais, il n'aura pas honte de toi jamais, jamais, parce qu'il s'est engagé pour toujours. Là où ça devient difficile et ardu, si c'est la critique et le jugement des autres, alors sache que tu peux en être définitivement libéré, car Christ nous a libérés, il nous a affranchis, c'est pour la liberté, c'est ça qu'on vient de voir, on va voir maintenant, la liberté affermie. Jésus et Dieu le Père veut que tu jouisses vraiment de cette liberté qui est rattachée à ton statut d'enfant de Dieu. Une liberté de vivre par l'Esprit et non selon des règlements. De vivre par l'Esprit. Un Esprit qui dit « Papa », qui te met en relation, qui scrute, comme on a vu la semaine passée, les pensées même intimes de Dieu, il te les révèle. « OK, je sais ce que j'ai à faire. » Une liberté de vivre par l'Esprit, non par la loi, car Christ a tout accompli la loi pour toi, et rien de ce que tu peux faire ou ne pas faire peut altérer son amour pour toi. Fait que, regardons un petit peu plus cette liberté affirmée. Paul nous dit dans notre passage ici, Galates 5.1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Dans la version sommaire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon, ne vous laissez pas réduire à nouveau à l'esclavage. Libérés de quoi au juste? De la servitude, de la religiosité, des principes élémentaires, rudimentaires qu'on a vus dans le passage. Fais ci, fais pas cela, qui nous amène à l'esclavage. Paul dit dans Romains 8, 14, on l'a vu déjà, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Un Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et non des esclaves. Donc, libre, libre, une liberté affermie. Rappelons ce que Jésus a dit dans Matthieu 11. Hein, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Dans la version Sommer, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. » Hein? Tu sens-tu comme ça des fois? Un lourd fardeau. La vie chrétienne, tu la trouves lourde, tu la trouves difficile, tu la trouves ardue, exigeante. Qui a déjà senti ça? Ben moi, oui. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on est retombé dans notre ancienne mentalité d'esclave. C'est pour ça. C'est pour ça. Jésus dit, non, non, venez à moi. Vous êtes fatigué, chargé, accablé par un lourd fardeau. Prenez mon joug sur vous, pas le joug de la loi, pas le joug des efforts, pas le joug d'un esclave, mon joug. C'est quoi un joug? C'est un attelage où il y a deux bœufs, hein? C'est fait en bois, là, puis il y a la place pour deux têtes. Hein? C'est un attelage, on attelait les bœufs pour tirer la charrue, pour tirer, pour labourer la terre. Hein? Là, Jésus dit, viens, laisse ton joug, viens prendre le mien. Ça veut dire quoi? Lui, il est déjà dans le joug, il a sa tête dans le joug, puis il dit, une place ici, c'est pour toi, là, viens avec moi. Moi, mon joug, il est doux et il est facile. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est de l'autre côté. Imagine-toi qu'on dit, OK, va labourer deux gars avec la charrue en arrière. C'est ouf, ça va être tough. Mais OK, on va changer le règlement. On va mettre un bœuf de 2000 livres d'un côté. Toi, tu vas être dans l'autre trou à côté. Ouais, je pense que je vais forcer pas mal moins. C'est lui qui va forcer à 95%. Mais c'est ça que Jésus est en train de dire. En fait, c'est lui qui se force à 100%. C'est lui qui a tout fait pour toi à la croix. C'est pour ça qu'il dit, viens, laisse ton joug, viens prendre le mien. Pourquoi? C'est pas qu'il veut, il veut te donner un joug, là. Lui, il a le joug, il dit, viens me mettre à côté de moi et tu vas trouver ça facile. Parce que c'est moi qui fais tout. Et mon fardeau, il est léger. Pourquoi? C'est lui qui traîne tout. C'est lui qui a tout traîné. Jésus m'invite à nous mettre sous son joug à lui, qui n'est pas un joug d'esclavage, mais de service joyeux. De service joyeux. Et de plus, c'est lui le plus fort. Alors, j'ai juste à le suivre, comme il dit, apprenez de moi. Recevez mes instructions. Son fardeau, il est léger parce que c'est lui qui tire, je n'ai pas à forcer. Mais là où ce que ça devient difficile et ardu, c'est lorsque je ne le suis pas. Oh! Et là, je tire contre Jésus. C'est comme tirer contre le bœuf de 2000 livres. Ça va être tough. Ça va être difficile. Parce que c'est pour ça qu'il dit, apprends de moi. Reçois mes instructions. Une autre version dit, mets-toi à mon école et tu vas trouver facile. C'est lorsqu'on veut tirer dans notre direction que ça devient difficile, pas vrai? Là, on force contre le bœuf de 2000 livres. Voici ce que l'apôtre Jean nous dit également. Nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru, pas juste intellectuellement, confiance. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à la maturité. On a vu tantôt que la mentalité d'un esclave, c'est la crainte. Tu n'es jamais sûr. La culpabilité. L'attente d'un jugement, d'une punition. Et Jean, ce qu'il dit ici, c'est que la personne qui vit dans la crainte, elle n'a pas vraiment reçu pleinement l'amour de Dieu pour elle. Parce qu'elle vit encore dans la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Quel amour? L'amour de Dieu. L'amour que Dieu place dans ton cœur et que tu reçois et que tu dis « Oui, oui Seigneur, je crois à ton amour. » Et c'est pour ça qu'il dit « Nous l'avons connu et nous avons cru. » Ce n'est pas assez de connaître, c'est de croire à l'amour de Dieu pour toi. Pour toi. C'est ce qui libère de la crainte et qui te donne une entière assurance au jour du jugement. Une entière assurance. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. C'est un bout de phrase qui n'est pas facile à comprendre. Il y a deux ou trois possibilités là-dedans qui ne sont pas contradictoires, qui se complètent. Une des interprétations de ça, c'est que si on vit l'amour dans nos relations, vraiment, à cause que l'amour de Dieu est en nous, bien, on est comme Christ. On vit comme Christ a vécu. Et ça nous rassure. Ça nous rassure. On vit l'amour dans nos relations, dans l'Église, ça nous rassure qu'on est comme le Christ et donc on n'a pas à craindre. L'autre interprétation qui n'est pas contradictoire, c'est que notre situation est telle il est, dans la version seconde, telle il est, telle nous sommes dans ce monde, c'est-à-dire telle il est actuellement, Christ, il est où? Il est auprès du Père, il est assis à la droite du Père, est-ce qu'il craint le jugement? Ben non, c'est Christ. Hein? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous n'avons pas à craindre le jugement parce que nous sommes près du cœur de Dieu, aussi près que Christ, puisque nous sommes en Christ. Ça, c'est l'autre interprétation. Ils ne sont pas contradictoires. Voyez-vous? Merveilleux, hein? C'est merveilleux. Amen. Bon, as-tu cru à l'amour de Dieu? Hein? J'ai dit... On a connu l'amour, mais on y a cru. As-tu cru? Et puis ça libère de la crainte du jugement. Aussi, Pierre dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrement au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint. » Fait que la liberté, comme on a dit, ce n'est pas la liberté de pécher. Le péché, ça nous rend toujours esclaves. Ce n'est pas une liberté. C'est comme prendre un poisson. Je te libère de l'eau. Tiens, je te mets sur la plage. Ben non, il va mourir. Ce n'est pas ça, la liberté. Il est libre quand il est dans l'eau. Nous aussi, on est libre quand on est dans la volonté de Dieu. Nous sommes libres. C'est plus « fais ci, fais ça ». C'est « marche selon l'esprit ». Mais c'est une liberté qui nous amène à obéir à Dieu. Basé sur quoi? Notre relation avec le Père. Comme des enfants obéissants, puisque ton Père est saint, par amour pour celui qui t'a appelé. Soyez saint. Fait que ton obéissance découle de ton identité. Ton obéissance découle de ton amour. Puisque vous êtes enfants bien-aimés, dit Paul, de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ, comme on a vu dans 1 Jean, là. Tel il est, tel nous sommes. Il a vécu par l'amour, nous sommes aussi appelés à vivre, à laisser notre vie dirigée par l'amour. Vous appartenez à la lumière, marchez comme des enfants de lumière, nous dit Éphésiens 5:8. Donc c'est une liberté de vivre et d'agir selon mon identité, ma nouvelle identité, comme enfant de Dieu. C'est une liberté de vivre selon mon identité. Comme le poisson. Le poisson, tu vas pas dire, je te libère de l'eau et je te mets sur la plage. Ben non, un poisson, son identité, c'est d'être dans l'eau. Nous avons été accueillis par Dieu comme des enfants. Notre liberté, c'est de vivre en fonction de notre nouvelle identité, de notre nouvelle personne. Vous appartenez à la lumière, marchez comme des enfants de lumière. Donc, tout découle de l'identité. Dieu ne dit pas, marche selon la lumière, puis peut-être qu'un jour, je vais te considérer comme un enfant de lumière. Non. Il dit, tu es un enfant de lumière. Marche maintenant dans la lumière. Amen. OK. On arrive. Mais là, ici, dans 1 Pierre 1,17, Pierre dit, « Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. » OK. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Dans la version seconde et d'autres versions, c'est avec crainte. Avec crainte. Ah, mais là, Brian, ça ne marche plus, là. Tu as dit que l'amour, hein, ça nous libérait de la crainte. Puis là, il dit, je vais vous lire dans la version seconde. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ah ben là, là, c'est quoi là? Hein? C'est une contradiction? OK. Comment comprendre ça là? Pierre, Jean, il dit, l'amour libère la crainte, parce que la crainte a la perspective d'un jugement. Puis si tu n'es pas parfait dans l'amour de Dieu, tu vas craindre son jugement. Mais ici, Pierre, il dit, servez-le avec crainte. OK. Ah, OK. Alors, moi, j'ai dit, peut-être que c'est un mot différent dans le grec. Non, c'est pas un mot différent. C'est phobos dans le grec, dans les deux. OK. Mais, des fois, un même mot peut avoir deux sens selon le contexte. OK? Ça c'est vrai, ça. Qu'est-ce que Pierre dit ici? La crainte de quoi au juste? C'est la crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu, pas la crainte du jugement. Oh, c'est différent. C'est différent. La crainte où le profond de Dieu pousse ses enfants à se rapprocher de lui. La crainte du jugement pousse les gens à s'éloigner de lui. Le plus bel exemple qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est quand Moïse, Dieu l'appelle pour monter dans le mont Sinaï. Hein? Puis Moïse a la crainte de Dieu. Là. Moïse, c'est marqué qu'au spectacle là, de tout ça, la montagne en feu, puis les tremblements de terre, puis le son de la trompette, puis tout ça, il était effrayé. Oui, et le mot là, apparemment que c'est ex-phobos, c'est mon fils qui m'a appris ça, ex-phobos qui veut dire t'es vraiment effrayé, t'es plus que dans la crainte, t'es hors de toi de crainte, OK? Ex-phobos. Et c'est, il y a juste deux places dans les Écritures que c'est marqué ça. Fait que, Moïse, ex-phobos, il est effrayé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de Dieu. Le peuple en bas, là, eux autres sont effrayés, mais ils ont dit, nous autres, là, sont comme ça, là, les deux mains en l'air, puis ils ont dit à Moïse, vas-y, Moïse, toi, vas-y. Pourquoi? Ils craignaient le jugement de Dieu. C'est deux choses différentes. La crainte de Dieu, le respect, le profond respect de Dieu, va te pousser à t'approcher de Dieu. C'est fou, hein? Mais c'est vrai. Il y a comme un respect profond qui, la Bible dit, la crainte de l'Éternel te fait détourner du mal. Te détourne du mal. Fait que ça te fait te rapprocher de Dieu. La crainte de l'Éternel te rapproche de Dieu, t'éloigne du mal. Parce que, en fait, c'est une crainte de déplaire à Dieu par profond respect. Mais la crainte du jugement de Dieu va te pousser loin de Dieu. Parce que là, tu ne veux pas de Dieu parce que tu veux continuer à vivre ta vie. Mais tu sais très bien que, en faisant ça, tu es passible du jugement. Mais si tu crains le jugement, ça va te pousser loin de Dieu. La crainte du jugement et la crainte de Dieu, c'est deux choses différentes. Ma mère était la secrétaire du directeur de notre école primaire quand j'étais jeune. Et là, lorsque je me battais ou je faisais un mauvais coup dans la cour d'école, les petits amis me disaient, « Ah, on sait bien, ta mère, c'est la secrétaire du directeur, toi, et tu peux faire comme tu veux, hein? » Mais non, ma mère, là, elle m'inspirait plutôt l'effroi. Elle m'inspirait plutôt l'effroi, et je ne voulais surtout pas la déshonorer aux yeux du directeur, parce que j'aimais ma mère, mais aussi parce que je n'aurais jamais fini d'entendre parler à la maison. Et ça, ça m'empêchait de faire des niaiseries. Plus de niaiseries. Plus de niaiseries. Donc, la crainte de ma mère me faisait détourner du mal. Le respect, l'amour, il y a de l'amour là-dedans aussi. En conclusion, mes amis, on termine avec ça. On a vu qu'il y a deux possibilités de relation avec Dieu basées sur deux identités différentes, deux alliances exclusives. Soit tu es esclave sous un joug, soit tu es enfant libre. Dieu veut faire de toi son enfant chéri. Le veux-tu? Le veux-tu comme ton papa? Acceptes-tu qu'il t'adopte dans sa famille? Acceptes-tu qu'il soit ton papa et qu'il prenne soin de toi et te dirige? Ce matin, je t'invite à lui dire ces choses. Je vais prier en conclusion. Et si tu veux faire tienne mes paroles, fais tienne mes paroles. Dieu Tout-Puissant, souverain Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y meut. Roi éternel, invisible, seul Dieu, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi la magnificence, à toi la majesté. On te loue, Seigneur, parce que tu es bon. On célèbre ta bonté qui n'a pas de fin. On célèbre ton amour qui est infini. On célèbre ta grâce qui est sans limite. Seigneur, ce matin, Papa, je suis devant toi. Je crois à ton amour. J'ai reconnu ton amour en Jésus. Ce que Jésus a fait à la croix pour moi, pour me sauver, je l'accueille. Je l'accueille ce matin, Seigneur. Je me détourne de mon ancienne vie d'esclave. J'accepte ton offre d'être ton enfant. J'accepte de croire en ta promesse. Viens me pardonner de toutes mes fautes. Viens me déclarer juste par le sang de Christ. Je veux être près de toi, Seigneur. Merci de m'accepter comme ton enfant. Je t'accepte comme mon papa. Je veux que tu diriges ma vie et que tu prennes soin de moi. Merci, Jésus, que tu n'as pas honte de m'appeler ton frère. Je veux mettre ma tête dans ce joug, à côté de toi, Seigneur Jésus, et te suivre pour maintenant et pour l'éternité. Amen. Si vous avez besoin de prière ce matin pour quelque raison que ce soit, besoin physique, besoin émotionnel, besoin spirituel, venez me voir, venez nous voir et ça nous fera plaisir de prier pour vous, OK? Bonne semaine, que Seigneur vous